Bonjour Grégoire Delacour.
Bonjour Bernard Lehu.
Vous signez donc c'est le sixième, mais oui, déjà,
Sixième roman.
sixième, je n'avais pas recompté avant notre rencontre, sixième roman, Danser au bord de l'abîme, publié chez Jean-Claude Lattès. On va y revenir bien sûr en détail, mais au bord de l'abîme, quel est cet abîme, Grégoire Delacour?
Ah ben c'est tous les abîmes de nos vies, c'est tous les gouffres, les failles, les dangers, nos frayeurs. C'est un endroit extraordinaire, l'abîme, hein, parce qu'on pense systématiquement qu'on va tomber, mais c'est de là aussi qu'on peut s'envoler. Et j'aimais bien cette crête, cette lisière un peu dangereuse, qui peut être très belle en fait, très positive.
Donc ici, c'est Emma, Emmanuel, mais on dit Emma, qui va danser au bord de cet abîme. On peut dire que cet abîme, et c'est peut-être le sujet au cœur du livre, c'est celui du désir, de l'attirance physique, du désir et de la puissance de ce désir.
Ah oui, elle va se mettre en danger, elle va être happée par un désir inexplicable, extrêmement fort, qui va l'atteindre et la traverser au plus profond. Et c'est curieux parce qu'Emma est une femme heureuse, comblée, un mari formidable,
Mariée, trois
trois
enfants.
enfants, heureuse, un boulot, des amis, bon, une mère un peu difficile. Mais elle est parfaitement heureuse, un petit village très chic, très, très bourgeois du nord de la France. Et elle rentre dans une brasserie, elle voit même pas le visage, elle voit un détail,
La
la
bouche.
bouche d'un homme, et elle sait que c'est fini pour elle, qu'elle doit y aller, elle va y aller. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on doit y aller quand on a 40 ans, des enfants, etc.? C'est quoi ce désir qui nous prend comme ça dans les entrailles et change notre vie en une nanoseconde?
C'est ça le point de départ du livre, c'était écrire un roman sur le désir et sa puissance.
Exactement, je voulais. Moi, le désir, c'est quelque chose qui me fascine. Pourquoi tout d'un coup on change radicalement sa vie au risque de blesser, de heurter, de détruire d'autres vies? Et tout d'un coup on y va, on ne peut pas ne pas y aller. Alors la plupart des gens n'y vont pas, pour des raisons de morale, de respect de l'autre, d'amour, de tendresse, d'amitié. Et puis ceux qui y vont, je trouve, sont des personnages de roman, par définition. Ceux qui mettent tout en jeu. Et j'avais vraiment envie de partir de ce désir. Et puis après, de voir ce que devient l'amour qu'on a pour ceux qu'on a quittés. Parce que le désir fait qu'on ne quitte pas ceux qu'on aime parce qu'on ne les aime plus. Mais parce qu'on pense qu'on va aimer ou avoir des vertiges encore plus grands ailleurs. Donc c'est très très compliqué de quitter quelqu'un, pas par désamour.
Donc c'est un livre aussi sur le coup de foudre. Ça existe, le coup de foudre,
Bah,
Grégoire
moi,
Delacour?
je pense que oui, et je n'engage que moi, puisque ça m'est arrivé en 2000. En une nanoseconde, j'ai changé ma vie pour une femme que j'ai entreaperçue de dos et avec laquelle je vis toujours 18 ans plus tard et très heureux. Mais ça m'est arrivé, cet abîme comme ça qui soudain s'ouvre. Alors, écrire ça, écrire l'histoire d'un homme qui vit ça, c'est assez convenu. C'est plus délicat et plus puissant avec une femme, je trouve, parce qu'on n'a pas l'habitude qu'une femme abandonne les enfants, etc.
Oui et non, en même temps, on
C'est
voit
vrai.
le clin d'œil. Emma, votre
Bah,
héroïne s'appelle Emma. Est-ce que elle sombre dans un bovarisme d'aujourd'hui, du
y a
21e siècle?
absolument, il y a une tendresse, un clin d'œil fait à cet Emma-là. Et puis il y a aussi le passé simple du verbe aimer, que je trouve très beau. C'est une femme qui pourra dire, quand elle aura passé sa vie, elle a aimé, elle aima.
Emma, Emma.
Emma, Emma. Elle aima la vie, elle aima ses enfants, elle aima l'amour, elle aima tout ça.
Alors, il y a une forme de paradoxe, c'est que donc, évidemment, elle est frappée par ce coup de foudre, et pourtant, tous les deux vont prendre leur temps, ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Voilà, ils vont s'approcher à tout petit pas, avec un jeu comme ça entre eux, qui relève presque de l'amour courtois, où elle lui dit, lors de leur premier contact, échange, « Je répondrai oui ». Et lui dit, d'ailleurs le livre commence comme ça, lui dit, alors je vais essayer de ne pas me tromper de question.
Déjà, quelqu'un qui vous dit je réponds oui, alors vous n'avez pas posé la question, je trouve ça délicieux et prometteur. Oui, il faut qu'ils prennent leur temps parce que ce sont des adultes. Ce n'est pas un coup de foot, ce n'est pas un coup d'une nuit, comme on dit dans les films ou d'autres livres. C'est vraiment quelque chose dont les deux protagonistes, elle et lui, sentent que ça va engager leur vie entière. Donc, ils ne veulent pas le gâcher. Parce que ce temps d'avant, il est irréversible. Le temps d'après, on peut le changer. Mais le temps d'avant, il est irréversible. Et ils veulent l'un et l'autre arriver à la rencontre libre, prêt, disponible. Et avoir réglé les fantômes du passé, avoir dit aux enfants, bah, c'est fini, au mari, c'est fini. Lui-même est engagé, puisqu'il est marié de son côté, de régler tout ça pour arriver neuf à l'autre. Donc ce temps-là, il est aussi le temps des hésitations. Et on va s'apercevoir que ni l'un ni l'autre n'ont une seconde d'hésitation.
Et ils sont formidables, ces deux personnages, parce que donc ils sont frappés par quelque chose de complètement irrationnel, le grand amour. Et en même temps, comme vous venez de le dire, ils ont cette lucidité, ils savent que ça va faire du mal autour d'eux. Et donc, ils prennent toutes les précautions pour essayer de réduire au minimum les dégâts.
Temps. Voilà, exactement. Ils prennent leur temps pour faire le moins de mal possible, sachant qu'encore une fois qu'ils vont en faire, mais ils vont en faire à des gens qui continue d'aimer. Ça, c'est très, très, très difficile. Parce que qu'est-ce qu'on dit à un gamin ? Mais maman, tu n'aimes plus papa, pourquoi tu t'en vas ? Mais si j'aime encore ton père, alors pourquoi tu t'en vas ? Et il y a une réponse. Et elle doit la donner. Et c'était passionnant en tant qu'écrivain de trouver ces réponses-là, de les donner. Et c'est terrifiant parce que c'est vrai, on peut quitter quelqu'un qu'on aime. Alors qu'on ne nous habitue pas du tout à ça.
L'originalité de votre livre, c'est que cette histoire d'Emma, Emmanuel et Alexandre, on ne l'a pas cité encore, pendant cette histoire, vous filez la métaphore avec la chèvre de Monsieur Seguin, la pauvre petite Blanquette, qui va être dévorée par le loup. Pourquoi ce parallèle ?
Parce que quand j'ai réfléchi au désir, tout de suite, l'histoire de Daudet m'est revenue. Elle était pour moi, enfant, le désir absolu. On m'a fait croire que c'était une histoire sur la désobéissance quand j'étais petit, du genre regarde Grégoire ce qui t'arrivera si tu désobéis, tu seras puni. Et en fait, très très tôt, j'ai compris d'où l'effroi et l'attirance pour cette histoire, que c'est l'histoire du désir même. Et on a beau lui dire à Blanquette, tu n'es pas heureuse ici, tu n'aimes pas ce que tu manges, l'herbe n'est pas bonne, mon amour ne te suffit pas, parce que le Seguin, il l'aime diablement, cette gamine.
Et elle dit si.
Et elle dit mais si, mais si. Mais alors qu'est-ce que tu veux ? Je veux y aller dans la montagne. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, je veux y aller. Et c'est dans cette incertitude, cette indécision, cette indéfinissable qu'il y a le lieu du désir. Alors l'homme Seguin menace, il dit mais tu vas rencontrer le loup. Peut-être c'est ça qu'elle veut rencontrer. Il va te manger. Ça ne fait rien, monsieur Seguin. Je veux y aller. Donc on est prêt, ou prête dans le cas d'Emma, à jouer de sa vie pour connaître ces quelques secondes de félicité. Dans le cas de Blanquette, ça va durer une petite journée et une nuit jusqu'à l'aube. Et c'est une vie entière. Il y a des gens qui sont prêts à mourir, entre guillemets, pour ça. D'ailleurs, la littérature le raconte. Et à tel point, j'ai été engagé avec le personnage d'Emma dans son désir, qu'il fallait que je lui flanque cette vérité de Blanquette pour dire à nous tous, mais c'est vrai, ça existe. Blanquette nous l'a montré.
Qui est le... Alors, Alexandre n'a rien d'un loup, visiblement. Qui est le loup pour Emma dans cette histoire ?
C'est ce qui va arriver à la fin de la première partie.
C'est le
destin. C'est l'inattendu, c'est le destin. C'est qu'on a beau tout préparer, tout prévoir.
Qui peut être cruel.
Voilà, et le destin, la vie est parfois magnifique et elle l'aura été pour ces deux-là. Mais aussi, il y a une cruauté, il y a une fatalité, une impossibilité peut-être même du désir. Peut-être que le désir n'est qu'une idée. Peut-être qu'on ne peut pas le vivre.
Donc, impossibilité sur laquelle on ne va pas s'étendre ici. On va laisser ce plaisir au lecteur. Mais ce qui me frappe, c'est que dans tous vos romans, Grégoire de la Cour, dans vos livres, il y a toujours un livre. Enfin, il y a toujours des références à d'autres livres. Pourquoi ce souci ?
Mais c'est très juste. J'ai eu soin depuis mon premier livre de mettre un livre dans mes livres. Ça a été Belle du Seigneur dans l'un, ça a été Que ma joie demeure de Giono dans l'autre, ça a été même Ancel et Gretel dans l'avant-dernier. Pour moi, c'est une manière de remercier les livres qui, à un moment de ma vie, m'ont sauvé la vie. C'est-à-dire que, étant d'une famille où les parents se fracassaient les mots, comme ça, se détruisaient un petit peu, je suis parti en pension très vite pour échapper à ce chagrin-là. Et mon père m'a mis la trilogie de Pagnol dans ma valise. J'étais très jeune et c'est les premiers livres que j'ai lus avec beaucoup d'importance, j'ai envie de dire. Et je me rendais compte que chez Pagnol, les familles pouvaient s'aimer et se le dire. Alors que chez moi, c'était le contraire. Et à un moment où je me serais volontiers jeté par une fenêtre, il n'y avait pas de barreau au pensionnat, ces livres m'ont dit, mais c'est possible, tu dois trouver une famille.
Et ça allait jusque-là. Et ça allait jusque-là. Il y avait cette tentation de vous sauver de votre vie, comme vous le dites
d'échapper, vous-même. D'échapper, de me sauver de ma vie. Et c'est les livres qui m'ont sauvé, qui ont dit, mais il y a une autre vie, il faut la chercher. Ça a été très très long, évidemment. Et donc, pour remercier les livres de ce merveilleux pouvoir qu'ils ont de sauver parfois des vies, je rends hommage à chaque fois à un livre dans mes livres.
Alors il y a une autre énigme avec Grégoire de la Cour, c'est que, et ça va être encore le cas avec celui-ci, vous racontez des histoires tragiques, enfin des malheurs comme ça qui nous bouleversent. Première question, pourquoi cette attirance, ce tropisme pour les histoires tragiques ?
Moi, je crois que c'est pour les apprivoiser. C'est apprivoiser mes peurs, mes angoisses. C'est essayer de répondre à cette question la plus terrifiante, la plus inhumanisante, qui est pourquoi un jour on n'est plus aimé ? parce qu'il n'y a rien de plus dramatique que ça, de plus être aimé par ceux qui devaient nous aimer. Donc écrire, creuser ce sillon-là, c'est peut-être chercher des réponses ou en tout cas à mettre des mots sur des choses qui font peur.
Et il y a un autre mystère avec vous, c'est que vous racontez des histoires, si on les prend comme ça au pied de la lettre, effroyables, et pourtant on sort de vos livres, enfin voilà, c'est un malheur qui nous fait du bien. Quelle est l'explication de ce paradoxe ?
Bah parce que je vis des malheurs en ce moment et ces livres, celui-ci est né aussi d'un grand chagrin personnel actuel.
Et, qui était la mort de votre père ?
Non, c'est la maladie très 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 grave de quelqu'un d'extrêmement proche.
Mm-hmm. La mort de votre père était abordée dans le roman précédent.
On voyait que le bonheur. Et là, c'est vrai que c'est aussi une manière de se dire, malgré les malheurs, malgré les chagrins, malgré la maladie, la vie elle est belle. Elle est malheureusement extrêmement courte. Ça, on ne se rend pas très bien compte. C'est son seul défaut, c'est d'être courte, mais c'est beau. Et que même dans tous ces chagrins, tous ces immenses malheurs, il y a quelque chose de plus beau qui fait que la vie, elle vaut quand même le coup. Moi, c'est ça que je veux raconter. Et à chaque fois, avec ces histoires qui, c'est vrai, sont puissantes, sont fortes sur la perte, sur eux, il y a quand même quelque chose de très beau. Et ce sentiment de bien-être que vous ressentez à la sortie du livre, moi, je voudrais qu'on le ressente dans la vraie vie.
Alors, il y a autre chose dans ce livre qui ne m'avait peut-être jamais autant frappé chez vous. C'est toute une série comme ça d'aphorismes, de formules, de très belles phrases, des fulgurances. Et en quelques mots, on se dit, ah ben oui, c'est ça, c'est exactement ça. Là, Grégoire Delacour, il a touché au plus près quelque chose qu'on éprouve tous, qu'on ressent tous. J'en ai relevé quelques-unes. Et il y a celle-ci, c'est justement parce qu'on n'a pas le temps qu'on doit aimer désespérément.
Oui. J'avais aussi envie dans ce texte de le persiller comme ça de choses qui ne sont pas dans une narration traditionnelle de A à B et d'avoir le droit de faire un chapitre d'une phrase comme celle-ci pour dire mais au fond c'est ça que je veux vous dire et je ne vais pas l'emballer, je vais vous donner l'os. Et voilà, et ça m'a permis d'aller au cœur, au scalpel même de ces choses simples qu'on oublie, c'est parce que c'est vrai que c'est tellement court, il faut aimer le plus possible. On n'a pas le temps de tergiverser, on n'a pas le temps d'aimer, de s'entourer de gens qui ne vous aiment pas.
Voilà, comme autant de fragments, comme ça, d'un discours amoureux, en quelque sorte.
Merci,
qui viennent ponctuer ce texte. Bon, je ne résiste pas au plaisir d'en citer d'autres, qui, alors là, avec une tonalité plus légère. Il y a des hommes qui vous trouvent jolie et d'autres qui vous rendent jolie.
Oui, en tant que femme, je sais que c'est vrai.
Il y a une femme qui sommeille en vous, Grégoire
Delacour ? Je crois, parce que depuis ma Jocelyne de la liste de mes envies qui racontait sa vie, j'étais un peu nostalgique de retrouver un grand rôle comme ça, un grand personnage féminin. Et c'est Emma, aujourd'hui. J'ai été bien avec elle pendant un an et demi. Ouais.
La durée en amour, hein, la durée n'est pas une vertu de l'amour, l'intensité, si.
Oui, je pense que...
On en revient toujours à cette idée du temps.
L'amour d'être éternel, on demande à ce qu'il procure un instant d'éternité.
Celle-ci aussi que j'aime beaucoup, page 112. On ne part pas par amour, au contraire, on reste par amour. Alors ça, c'est le fils qui va balancer ça à Emma. Elle est dure, elle est terrible, cette phrase. En même temps, elle est aussi assez juste.
Oui, mais c'est un gamin qui a 14-15 ans.
Où est la plus grande preuve d'amour ? Partir ou rester ?
Voilà. Et il a 14-15 ans, il ne sait pas encore ce que c'est l'amour, mais pour lui, et c'est ce qu'on nous apprend, c'est de rester, c'est de supporter la médiocrité, les chagrins, les frustrations, et elle dit non.
Les mots qu'on ne dit pas sont ceux qui font le plus de mal.
Ça, je suis convaincu que c'est vrai. C'est les silences sont d'une violence inouïe. Et ne pas dire qu'on aime quelqu'un, ne pas lui dire, ça peut le tuer.
Alors ça, on le sait, et on en a fait des pages et des pages dans la littérature.
Moi, j'ai fait une phrase.
Alors justement,
j'ai fait une phrase.
Je me demandais, mais comment ces phrases vous viennent ? Est-ce que, comme ça, d'un seul coup, spontanément, en effet, c'est une fulgurance ? Ou alors est-ce que vous les cherchez, vous les notez, vous les avez un petit carnet ?
Non, elles viennent. Parfois, elles précèdent des choses, elles sont dans l'air. Et à un moment, elles concluent un chapitre, ou elles ouvrent un chapitre, ou elles sont le chapitre. Mais ça vient aussi peut-être de l'écriture que j'aime, très dégraissée, très décoinée, comme on dit avec mon ami Fournier. C'est-à-dire enlever beaucoup de mots et on trouve quelque chose de très beau souvent à l'intérieur des mots.
Jean-Louis Fournier, bien sûr. Bah oui. L'écrivain que nos auditeurs connaissent très bien aussi. Bon, allez, une dernière, parce que peut-être elle résume toute l'histoire d'Emma. Il faut bien pardonner et être pardonné si l'on veut vivre.
Oui, et c'est bien les deux. Hein. C'est pardonner, être pardonné, parce qu'on a aussi nos propres paquets. Mais c'est surtout essayer de s'alléger de tout ce qui nous entrave et tout ce qui nous prive du bonheur inouïe, inestimable d'être vivant.
Alors, il y a une autre particularité chez Grégoire Delacour. On parlait tout à l'heure toujours du livre, à l'intérieur du livre. Il y a aussi les références musicales. Je me souviens qu'on en avait parlé d'ailleurs dans les 4 saisons de l'été. C'était hors saison, là, la chanson de Cabrel. Ici, il y en a d'autres. Et en particulier, il y a beaucoup d'opéras. La Traviata, l'Élixir d'amour, Agrippina d'Handel. C'est une conversion. Grégoire Delacour a découvert l'opéra.
Exactement. J'ai découvert l'opéra grâce à ma femme il y a environ 3 ans. Et j'ai absolument adoré ça. Je ne connaissais pas du tout. On m'aurait jamais imaginé aller à l'opéra. Et en fait, je m'aperçois que c'est le dernier grand endroit où on meurt d'amour. Vous voyez, dans les films, aujourd'hui, on essaie de vivre, on essaie de s'en sortir, on essaie de voilà.
Et ouais, là, les opéras, en général, ça ne se termine
voilà,
pas très bien.
Voilà, c'est pas très bien. Et je trouve ça extrêmement beau qu'on puisse mourir d'amour comme ça, avec de la musique. Et c'est quand même assez joli, même si c'est tragique. Et je trouvais que l'histoire d'Emma et d'Alexandre, puis d'Olivier, qui est celui qu'elle a quitté, est une sorte d'opéra. Sombre, certes, mais aussi lumineux, puisque ça ne parle que d'amour et de la perte de l'amour. Donc oui, l'opéra était une grande, grande révélation pour moi et a accompagné toute l'écriture de ce livre.
S'il fallait en retenir, alors donc vous en citez plusieurs, je viens de les mentionner, s'il fallait en retenir un qui vous paraît la bande originale,
mieux adaptée. Spontanément, ils sont tous beaux, ceux que vous avez cités, mais j'ai une tendresse pour Madame Butterfly, parce qu'elle a connu le désir absolu, elle a été dans cette attente, et je pense qu'il a été sincère une seconde, ce brave homme, Pickleton, mais qu'elle a vécu dans un mensonge, et ça, c'est absolument tragique. Et cette fameuse scène où elle est cachée, elle dit « Mais regarde, il va revenir, il viendra par là, il sera là, et je courrai vers lui. » On sait que ça n'arrivera pas, et on a quand même envie d'y croire avec elle. Et c'est dans ce mystère-là, de cette foi en le désir, qu'il y a toute la beauté et de l'amour.
Alors, un mot d'Olivier, parce que vous y avez fait allusion, donc le mari, celui qui est quitté, qui est malade, très malade, on a le droit de quitter quelqu'un de malade.
Quand elle le quitte, il est en rémission. Donc, il n'est pas malade techniquement à ce moment-là. Mais on a le droit de quitter qui on veut, bien sûr. On a le droit de revenir aussi. On a le droit d'essayer, vous le disiez, de pardonner et d'être pardonné. Et de se poser la question, l'amour que j'ai eu pour quelqu'un, il s'en va où? Il ne s'évapore pas, il est là. Il prend d'autres formes. Et c'est ces autres formes d'amour aussi que j'ai voulu explorer. Comment on aime quelqu'un qu'on a aimé, mais qu'on ne peut plus aimer de la même manière parce que le temps est plus court, parce que la vie a changé, parce qu'on a connu une passion belle, magnifique et un petit peu destructrice quand même.
Quand on a aimé quelqu'un, ça ne s'éteint finalement peut-être jamais. Il reste un lien particulier entre deux êtres qui se sont aimés.
Moi, je crois que exactement, quand on a aimé, ça disparaît pas. C'est un amour après qu'on met en veilleuse, qu'on congèle même, mais il est là, il y a toujours une petite braise. Alors, on ne s'en sert pas, on ne s'y chauffe pas, mais elle est là. J'en suis convaincu. Et heureusement, ça serait terrifiant qu'il n'y ait plus cette mémoire-là quand on a aimé quelqu'un.
Une dernière question, beaucoup plus légère pour terminer. J'ai cru comprendre que vous vous amusez à placer des clins d'œil à vos lecteurs.
C'est parce exact.
Que,
c'est
je, exact. Je lis, et d'ailleurs je le recommande, je lis votre site où vous êtes très actif et où on a un peu le making-of de vos romans. Et alors notamment cette fois-ci, il y a de la bergamote.
La bergamote de Nancy, c'est un lecteur à Nancy au Salon du Livre il y a 2 ans qui m'a dit « Ah, j'aimerais bien que vous parliez de nous, est-ce que vous pourriez caser ça ?» J'ai dit oui. Il y a une jeune femme à Saint-Paul-de-Vence au Salon qui m'a dit « Ah, je m'appelle Sophie, j'adore Madrid, est-ce que vous pourriez le faire ?» Il y a une Sophie qui adore Madrid. Et voilà, et je trouve très agréable comme ça de faire des petits cadeaux, lecteurs, ça change rien au livre, si vous voulez, mais ils rentrent dans le livre à leur manière. Et ça, j'aime bien cette relation particulière que j'ai avec eux et ils me le rendent bien.
Et ça leur plaît, enfin, ils s'en aperçoivent la plupart du temps quand même.
Oui, ils sont très contents, je pense qu'ils encadrent les pages.
Mais vous les alertez ou
non,
vous
non,
leur
je
laissez
les laisse découvrir.
La joie de
oui, je les laisse découvrir.
Découvrir.
Ils m'écrivent, ils disent « Ah, vous avez tenu votre promesse il y a 2 ans, c'est incroyable. » Et oui, je fais très attention à ça. Faut faire, c'est un beau dialogue, en fait, à travers les livres.
Alors, Bergamote, c'est très joli, mais au fil de vos 6 livres, quel est le, enfin, ou des 5, puisque dans le premier, vous ne pouviez pas pratiquer ce jeu, quel est le mot le plus fou que
Paris
vous avez réussi à placer?
Paris idolie, j'ai réussi à le mettre 3 fois dans 3 livres. C'est un mot très curieux, Paris idolie, qui n'est pas connu, mais qui décrit l'effet d'ombre ou de nuages qui dessinent, par exemple, une tour Eiffel ou un hippopotame. Donc, des nuages qui dessinent un hippopotame, c'est une Paris idolie. Donc, quelqu'un m'avait dit ça un jour, je ne connaissais pas le mot, j'ai dit, mais je vais le mettre, c'est passionnant, et j'ai mis 3 fois dans 3 livres, parce que c'est un beau mot. C'est un joli mot, c'est un mot rare et c'est un mot qui est justement un peu la métaphore du roman, c'est des mots qu'on met qui disent autre chose. C'est une parodie.
Qui prennent une forme.
Ouais, c'est une illusion comme ça.
Grégoire Delacour, l'homme qui aime les mots. Merci, donc Danser au bord de l'abîme paraît chez Jean-Claude Lattès.